Amen.
Nous allons prendre deux textes. Il y a un de l'Ancien Testament et un autre du Nouveau Testament. Celui de l'Ancien Testament est tiré du livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 30, nous allons lire à partir du 15e verset jusqu'au 20e. Le deuxième, c'est dans Matthieu chapitre 7, à partir du 11e verset jusqu'au 21e. Et le thème autour duquel nous voulons méditer ce matin est intitulé « L'heure du grand choix ». Qui sera admis dans le royaume des dieux ou dans le royaume des cieux? Si vous avez suivi attentivement la lecture que nous venons de faire, et si je pouvais vous poser la question de savoir quel est le titre que vous allez donner, ou bien que vous pouvez donner à ce passage que nous avons lu, sans tarder, vous allez dire que la thématique qui traverse ce passage-là, c'est la question de choix. En Deutéronome, comme en Matthieu, là où nous avons lu, vous allez trouver se dégager cette thématique, la question de choix. Choisir. Choisir, c'est avoir de la préférence pour une chose, ou pour une personne au détriment d'une telle autre chose, ou d'une telle autre personne. Même ce matin, vous avez fait le choix de venir à prier à Goma Ouest. Même ce matin, vous avez toujours été exposé à un choix. Et quand je vous regarde tous, je vois bien que vous êtes bien habillés en habit du dimanche, vrai ou faux. D'ailleurs, le fait de l'appeler habit du dimanche, c'est déjà un choix que vous avez porté sur cet habit-là. Vous en avez dans les placards, mais vous avez choisi de vous habiller de la manière dont vous êtes habillé ce matin. Vous avez fait intervenir votre choix. Vous direz quoi, en fait? Que le choix fait partie de l'ADN de l'être humain. C'est qu'à chaque instant de votre existence et de mon existence, je suis toujours porté par un choix. Si tu es voleur, il ne faut pas dire que voici. Bon, majaribu na kwa mingi, ndio kwa man. C'est un choix. Si tu es un malfrant, c'est que tu as choisi cela comme chemin de ta vie. Tout ce que nous faisons, c'est le produit de notre choix. On s'est choisi un métier qu'on veut faire. Même quand on s'est converti à un autre métier, là, nous devons savoir qu'il y a toujours la question de choix que l'on fait. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons reconnaître que dans les choix que nous faisons, c'est que nous engageons notre propre liberté, la liberté que Dieu a placée en nous, en nous créant à son image. C'est que créer à l'image de Dieu veut dire que nous sommes capables de prendre des choix, que nous avons la liberté de choisir. Et je venais de le dire, ça fait partie de notre ADN. C'est que vous ne pouvez pas vous en passer. Le choix, choisir. Mais ce qui est intéressant à reconnaître, parce que Dieu nous a créés à son image, et l'image de Dieu en nous, c'est la liberté qu'il nous a donné de choisir, parce que notre Dieu est libre. Ah, il ne veut pas nous utiliser comme des marionnettes. Il nous laisse, à chacun et à chacune, il laisse à nous tous le libre arbitre de choisir dans la vie. Pour dire quoi? Que toute notre vie n'est que la dynamique de choix. Et vous savez bien que des fois la vie devient amère quand les choix n'ont pas été judicieux. Quand tu as fait un mauvais choix ou bien que le choix a été mal fait, la vie risque de tourner au vinaigre. On n'aura pas le goût de continuer à vivre. Surtout quand il s'agit, n'est-ce pas, du mariage. Parce que vous êtes condamné à vivre avec l'autre jusqu'à la fin de votre vie. Et c'est là que ça devient un problème. Et on se pose toujours la question de savoir, ah si je l'avais su, comment que je pouvais marier un monstre comme celui-là? Ah si je l'avais su, comment que je pouvais me marier à une femme comme à celle-là? Mais tu n'étais pas obligé de savoir. Mais quelque part, c'est le produit du choix que tu as. À qui tu as fait. Et dans la plupart des séminaires qui sont animés à l'intention des jeunes, on a toujours rappelé à qu'il faut faire attention par rapport à quoi les jeunes? Par rapport au quoi, à quoi? Au choix de quoi et de qui? Parce que le choix qui est mal fait risque de faire quoi? De causer des érosions dans la vie. Et si ce choix-là ne s'est pas fait en conformité avec la volonté de Dieu, telle qu'exprimée dans la Bible, c'est là que ça devient la catastrophe. Vous verrez des gens se dire, bon, les filles se disent, je peux me marier à n'importe qui, Je sais que je suis chrétienne, je vais l'amener à Christ. Bravo, ma sœur. Et au cas où il t'a amené maintenant là où il est, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai déjà eu, ah oui, des jeunes hommes, des garçons me dire que oui, écoute, je suis bien assis dans la foi. Fais confiance, pasteur, tout ira bien. Et alors, si tu étais attiré par... Alors, je peux marier donc avec une musulmane, ça ne pose aucun problème. Bravo, mon gars. Non, ce n'est pas ça, bien aimé. La parole que nous avons lue, hein, Deutéronome chapitre 30, surtout au verset 19, l'auteur de Deutéronome nous invite à faire le plus grand choix dans notre vie, dans notre existence. Et le grand choix que nous devons faire, c'est celui de quoi? De la vie. Le choix de la vie. Et Deutéronome continue à nous dire, afin que tu vives, toi et ta descendance. C'est que si tu veux vivre, tu dois veiller à cet aspect-là de la vie. Le choix. Et pour que même toi et ta descendance, vous puissiez vivre, il faut bien faire les choix. C'est que Yahvé, notre Dieu, est clair par rapport au choix à que tu es appelé à faire. Tu n'as pas de choix à faire. Parce que le Seigneur Dieu, dans le livre de Deutéronome, il nous dit clairement que pour vivre, il te demande d'aimer Dieu donc, de marcher dans ses voies, non dans tes voies, de respecter ses règles et de marcher de la manière dont lui attend de toi, pas de la manière dont toi tu attends marcher. Respecter ses règles, ses commandements et ses prescriptions. Quand on aime Dieu, on doit être à l'écoute de ce qu'il nous donne comme règle de vie et on doit marcher dans ces règles-là. Ne pas rentrer dans cette dynamique, bien-aimé, ne pas rentrer dans cette dynamique de choix, c'est s'exposer à la mort, nous dit Deutéronome. Il y a une vie qui n'a pas d'issue à une vie qui est malheureuse. Et cela est une expérience millénaire, parce que notre histoire est jalonnée de faits, des gens qui ont choisi la désobéissance à Dieu, mais ils ont fini très très mal. Vous en connaissez dans votre histoire, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans le quartier où vous vivez, que ce soit là où le Seigneur vous a placé, vous connaissez des gens à qui ils ont pris l'option de choisir l'autre voie, et ils ont fini très mal. Des gens qui ont choisi le chemin de la mort. Et ces gens qui ont choisi le chemin de la mort finissent toujours mal leur course ici sur la terre. Et donc Dieu est clair, mes bien-aimés. Sa parole est claire par rapport au choix. C'est lui ou celle qui choisit dans sa vie de se conformer à la volonté de Dieu. Il gagne plus qu'il ne perd. Alléluia. Vous inscrire dans la dynamique du choix de la vie que Dieu donne, vous y gagnez plus que vous ne perdez. Et Jésus-Christ, dans son enseignement, va reprendre la même thématique en l'amplifiant. Et Jésus montre que notre vie est aussi question de choix. Notre vie, c'est une question de choisir. Et c'est le texte que nous avons lu dans Matthieu au chapitre 7. Choisir. Et donc, à base de ce texte, nous voulons conduire la méditation autour de trois choisir. Je dis bien trois choisir. Je ne dis pas trois choix. Les trois choisir, parce que j'aime bien à l'infinitif. Le premier choisir, c'est choisir son chemin. Choisir son chemin. Jésus dit, entrez par la porte étroite. Étroitesse. Cela veut dire quoi, mes bien-aimés? Cela veut dire quoi? Quand on dit que la porte, elle est étroite, cela veut dire qu'elle est grande ou petite. En effet, large est la porte. Et spacieux, le chemin qui mène, où c'est? À la perdition. Problème de choix. Choisir son chemin. Il y a la porte étroite et le chemin spacieux. Et chaque chemin a quoi? A une issue. Et deux chemins qui nous sont présentés ici, c'est qu'il y a un qui est étroit et qui mène à la vie. L'autre qui est spacieux, où il y a beaucoup de facilité, mais qui mène à quoi? À la ruine éternelle. Mais la tendance, c'est de choisir quoi? La porte qui est spacieuse. Parce que là, on marche avec beaucoup plus d'aisance, n'est-ce pas? On ne se dispute pas devant cette porte-là qui est étroite. Et c'est pour cela que Jésus a dit que mais, la plupart des gens ont emprunté cette voie-là, croyant que c'est la voie de la vérité. Généralement, dans notre rationalité, en tant que des êtres humains, on a tendance à emprunter la voie à où tout le monde peut passer librement, n'est-ce pas? Et c'est ça, nous sommes attirés toujours par là où on trouve des facilités, là où on peut marcher sans pour autant se bousculer. Mais Jésus a une autre vision par rapport à notre vie. Il veut nous montrer que s'il y a une porte qui soit étroite, c'est qu'il y a un prix à payer pour rentrer par cette porte qui est étroite. Il y a un prix à payer. Et cela, c'est en rapport avec le Seigneur Jésus lui-même. Et la Bible déclare, mes bien-aimés, que Jésus existait en forme de Dieu, mais n'a pas vu cela comme une proie à arracher d'être qui? L'égal de Dieu. Il n'a pas pris cela comme une proie à arracher. Et la Bible déclare à qu'il s'est dépouillé en prenant la forme d'esclave et en devenant semblable aux hommes. Voilà la condition obligée pour rentrer par cette porte étroite. C'est le maître lui-même qui nous donne cette condition-là à partir de ce qu'il a été, de ce qu'il a fait. Voilà ce qui fait l'étroitesse de la porte en question. L'étroitesse de cette porte-là. Ce qui fait l'étroitesse de cette porte, c'est qu'elle nous demande quoi? Elle nous demande d'être dépouillés de tout ce qui nous est très cher. Mais bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Se dépouiller de ce qui est très cher. De ce qui a supplanté la place de Dieu dans ton existence. Comme Christ s'est dépouillé de sa divinité pour devenir la porte. Et voilà que pour rentrer par cette porte-là, il faudrait que nous soyons dépouillés de tout ce qui nous est cher. Et ça, mes bien-aimés, c'est un travail de fond à qui doit se faire dans notre vie. Et ça ne se fait pas par coup de baguette magique, tu te lèves le matin, tu dis, oh ça y est, je suis dans la porte étroite. Non, c'est question de travail, de la grâce de Dieu dans notre existence de manière singulière. De manière singulière, donc c'est dans ta vie et dans la mienne. Ce n'est pas un travail d'un jour, mais c'est un travail de grâce. Et qui s'est fait du jour le jour. Et qui s'est traduit dans un mode de vie que nous sommes appelés à mener. Mode de vie que nous sommes appelés à mener selon la pratique de la parole de Dieu, selon notre manière d'aimer le Seigneur, d'aimer Dieu lui-même et de nous appliquer à sa loi. Aimer le Seigneur, c'est ça ce qui nous est demandé. Et soyez rassurés que quand tu dis que tu aimes le Seigneur, c'est qu'il y a une conséquence, il y a une implication par rapport à se situer par rapport à sa parole. Comment obéissons-nous à cette parole-là? Comment nous appliquons la loi de Dieu au quotidien dans notre vie? Vous voulez savoir la dimension de cette porte? Certainement, parce qu'elle est étroite. Et quelle est la dimension de cette porte-là? Si j'ai posé la question aux ingénieurs qui sont là, j'ai dit les ingénieurs de tout poil, hein? Le chemin étroit à une. La dimension de cette porte, ce sont les bras de Jésus-Christ qui sont tendus sur la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si tu veux savoir la dimension de la porte étroite, il suffit seulement de savoir que, voilà, les bras de Jésus-Christ qui ont été tendus sur la croix, c'est ça ce qui constitue la dimension de cette porte. Et par les bras de Jésus-Christ à la croix, Dieu nous accueille. Et en nous accueillant, il nous renvoie dans le monde pour que nous y menions une vie selon, non pas selon les trains de ce monde, mais selon les prescriptions de notre Seigneur. Rentrer par cette porte qui a la dimension des bras tendus vers sur la croix et ces bras qui nous accueillent et nous renvoient dans le monde où le Seigneur nous place pour que nous menions une vie, mais une vie des privations au nom de l'amour de ce que nous aimons beaucoup. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, choisir le chemin, choisir son chemin et entrer par la porte, c'est-à-dire entrer par C'est lui qui a déclaré à qu'il est le chemin, la vérité et la vie.
On ne peut pas accéder au royaume sans passer par cette porte-là. En dehors de la porte à question, il n'y a que perdition, il n'y a que malheur, il n'y a que malédiction. Mais il y a la vie quand on rentre par cette porte. Alléluia.
Les bras de Jésus qui sont tendus vers toi pour t'accueillir à rentrer par cette porte. D'où la question, fais-tu partie de la minorité qui a fait le bon choix? Fais-tu partie de cette minorité qui a fait le bon choix de choisir Jésus-Christ, à qui est le chemin, la vérité et la vie? Ou la majorité qui suit dans un total aveuglement les dieux de ces siècles pour sa propre destruction? Les temps de grand choix, mes bien-aimés, est au devant de chacun et de chacune. C'est le moment de se fixer par rapport au choix. Et c'est le moment de se fixer sur les choix. Et dans les choix, il n'y a pas d'intermédiaire, mes bien-aimés. C'est soit l'un ou l'autre. Ce n'est pas l'un et l'autre. C'est soit l'un ou l'autre, pas l'un et l'autre. Dieu nous invite, mes bien-aimés dans le Seigneur, à choisir le chemin de la vie. Mais pourvu que nous acceptions d'être dépouillés par la grâce des liens qui nous rendent encore captifs. Le deuxième choisir, c'est choisir le discernement des esprits. Choisir le discernement de l'esprit. Le Seigneur Jésus nous invite à cela. Et vous pouvez déjà vous en rendre compte, dans le contexte actuel de notre pays, où là où Dieu nous a placés, où les serviteurs des dieux sont devenus légion. C'est à chaque coin de la rue où il y a quelqu'un qui se proclame serviteur des dieux. Et alors, devant cette confusion, nous devons faire preuve du discernement pour reconnaître les faux, les vrais, les faux prophètes, les humbles agneaux, des loups ravisseurs. Et la parole de Dieu est claire. Et elle nous dit que on le reconnaîtra par quoi? Par les fruits qu'ils vont produire. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça c'est une expérience au quotidien. Est-ce que vous pouvez demander des mangues à un avocatier? Est-ce que vous pouvez demander des avocats à un papayer? Ça ne peut pas, parce qu'il y a un ADN à l'intérieur. Mais bien aimé dans le Seigneur, les fruits dont il est question ici représentent les œuvres de ces faux prophètes. Et vous savez bien que la plupart de ces faux prophètes, ils ne sont pas innocents dans ce qu'ils font. Ils utilisent beaucoup la magie, le maraboutage et bien d'autres histoires qui appartiennent au monde des ténèbres. Mais comme nous sommes toujours attirés par les spectacles, et facilement, ils nous attirent vers eux. Mais quand tu rentres dedans, tu vas constater qu'il n'y a que fausseté, il n'y a que la mort. Les fruits qui représentent les œuvres. Les fruits dont il est question ici, ça représente aussi la conduite. Ces faux prophètes, ils ont une conduite, et une conduite que j'appelle une conduite envieuse de bien des autres. Il arrive chez toi à domicile, assis-toi en téléviseur avec un plat cathodique ou machétrique, qui n'a pas chez lui, il va dire directement que dans ce téléviseur, il y a quoi? Il y a des mauvais esprits. Non, dis-nous seulement que tu n'en as pas chez toi, tu as vu ce qui est ailleurs. Tu sens la conduite de ces gens-là. Jamais ils ne pourront rendre grâce à Dieu pour ce que les uns et les autres sont en train de connaître comme exploit, comme épanouissement, mais ils veulent s'accaparer de tout ce qu'ils ont. Oh, ils te diront, jamais un serviteur de Dieu ne peut marcher à pied. Mais Jésus a marché aussi à pied. Dis donc, si moi je suis serviteur, c'est que vous devez me faire ceci, vous devez me faire cela, vous devez... Et leur conduite, ça tourne autour d'eux-mêmes, au lieu que ça soit tourné d'abord pour l'épanouissement de ce que Dieu nous donne, afin que nous puissions nous accompagner mutuellement sur le chemin étroit à vue d'accéder au royaume. Troisième fruit, troisième signification que cela représente, oui, les fruits représentent aussi la doctrine malsaine de ce prophète-là. Il véhicule une doctrine, alors, je ne sais pas si vous en rendez compte, c'est que dans leur prédication, au lieu de rassembler, ils divisent les familles, ils opposent les uns contre les autres. Le mari opposé à son épouse,
Vous pouvez vivre 20, 25, 30, 35, 40. Et puis au bout de 50 ans de mariage, et c'est maintenant là que la femme va constater que Bonaïk en a quoi à perdre. Mais attends quand même. Ce n'est que ces jours-là que tu vas constater après 50 ans. Et tu commences par dire, oh, tu commences par l'Ukemer, par l'exorciser. Ah, quand il arrive, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah non. Attendez voir, ça ne fait que diviser les familles. J'avais assisté à une scène d'une sœur qui était allée voir un prophète. Et puis là, à la suite de l'enseignement, elle est revenue et on lui a dit que c'est la toute petite, là, la dernière, la toute petite, oui, à qui avait piqué son étoile. La toute petite, la dernière, là, essayez de vous représenter ça. Et alors, elle retourne à la maison, comment ? Furieuse, n'est-ce pas, parce qu'il y a quelqu'un qui lui a piqué son étoile. Et je ne sais pas cette histoire d'étoile, d'où est-ce que ça vient, quoi. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est dans la Bible ? Et puis, ça a pris la dimension dans vos langages. Oh, étoile et âme. Ah non, attends. Moi, ce n'est pas ça. Moi, je sais bien que mon histoire est inscrite dans les paumes de Dieu. Il n'est pas question d'étoile. Mais c'est parce que j'ai fait l'alliance avec lui. Étoile. Suis comment tu vas signer Kokuli. Et puis, la pauvre petite, la toute petite, la dernière de la famille. Et elle venait s'embrasser, elle venait pour embrasser sa soeur qui venait de quoi d'un enseignement des prophètes. Et il y a un caribou, yambi. Et quand une fois la fille dit, c'est des mots jokai. Alors, elle a esquivé, puis vous voyez ce que ça a été. C'est que la petite se retrouvait à côté devant le parterre comme un serpent.
Et tout ça parce que vous aimez trop suivre ce qui va vous faire du mal à que du bien. Les choix que vous faites, ce n'est pas pour la vie. Troisième choisir, c'est de choisir la cohérence. Choisir la cohérence entre la déclaration des lèvres et l'engagement personnel avec le Seigneur. Alléluia. La cohérence. La Bible déclare que ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Mais ceux qui ont choisi quoi? De construire leur vie sur le roc à qui est Jésus-Christ. Alléluia. Et ce sont ceux qui ont choisi Jésus-Christ. Et ses enseignements, comme le fondement de leur vie, ce sont ceux-là à qui rentreront dans le royaume. Choisir la cohérence. Il ne s'agit pas ici de se contenter de mots, de paroles, de confessions vides, sans contenu. Mais c'est faire de la parole de Dieu le socle de notre vie. Faire de la parole de Dieu le socle de notre existence. Et c'est d'inscrire sa vie dans la relation dynamique avec Dieu et qui nous promet une confiance ferme dans ce qu'il est capable de faire. Voilà la qualité de la relation à qui permet de faire face aux réalités de l'existence de notre temps. Au Congo, nous sommes confrontés à beaucoup de défis. La vie elle-même passe pour un défi majeur. Et vous savez bien qu'en comparant les niveaux de vie ici chez nous au Congo avec ceux des pays limitrophes, on constate que chez nous tout est cher. La vie c'est un véritable casse-tête. Trouver à manger, c'est un véritable parcours de combattants et nous avons inventé même le vocabulaire de l'estage pour ce qui est de manger. Ça montre combien que ça ne va pas. Allez-y voir les termes qui sont utilisés et qui constituent notre manière de penser. Et ça s'est installé à nous. Il y a la rationalité que j'appelle la rationalité du Murongo, la rationalité du Seemuyangu, la rationalité de se retrouver dans une opération, se retrouver, la rationalité et bien d'autres choses. Nous tous, nous sommes exposés à des intempéries existentielles de notre temps. Et par moments, elles peuvent nous entraîner dans une sorte d'incohérence entre la déclaration de nos bouches et l'état de notre cœur. Mais bien aimé dans le Seigneur, entrer dans le royaume des cieux exige de chacun et de chacune et de nous tous de vivre une vie où il y a la cohérence entre la déclaration de la bouche et l'état du cœur. On ne doit pas dire une chose et dans le cœur, il y a autre chose. Et le thème d'aujourd'hui, mes bien-aimés, que j'ai énoncé au début, disait l'heure du grand choix. Et le long de la prédication, nous avons eu à dire quoi ? Que faire un choix fait partie de notre ADN. C'est de cette manière-là que
Dieu nous a créés.
L'être humain s'est choisi beaucoup de choses, mais le plus grand choix auquel Dieu nous appelle, c'est le choix de la vie.
Choisir la vie, c'est vivre et ne vivre que de Dieu et de Dieu seul.
C'est vivre en cohérence entre la déclaration de sa bouche et l'état de son cœur.
Voilà à ce qui va nous permettre d'être admis dans le royaume des cieux.
Le moment est là, mes bien-aimés, pour que chacun fasse un choix.
Et le grand choix, je dis bien le grand choix que vous devez faire,
c'est de choisir la vie parce que c'est par elle que vous serez candidat au royaume des dieux.
Que vous serez candidat au fait de faire la volonté de notre Dieu.
Nous allons nous incliner dans la prière, mes bien-aimés.
Et que chacun fasse cet examen de conscience.
À qu'il se place, non pas devant Kamabou, mais qu'il se place devant Dieu en lui posant la question.
Et en lui disant, Seigneur, les choix que je fais dans ma vie,
les choix que je fais dans ma vie, ne m'ouvrent pas à suivre la vie que toi tu veux me donner.